À tous, vous m'entendez? En tout cas, bienvenue à chacun d'entre vous. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ça va? Vous tenez le coup? Plus ou moins? Non, il fait trop chaud. J'aimerais vous donner l'occasion, parce que je sais que certains sont arrivés un petit peu après, simplement de vous saluer les uns les autres. Je pense que vous n'avez pas eu trop l'occasion de voir vos voisins qui sont apparus juste derrière vous. Juste, voilà, dites bonjour aux uns et aux autres. Ce matin, je ne démarre pas une nouvelle série de prédications, mais j'aborde un thème qui n'est peut-être pas si souvent évoqué dans l'Église, le thème de la colère. S'il est vrai que la théologie catholique a retenu la colère comme l'un des 7 péchés capitaux, la colère est-elle pour autant un péché? Dans un sens, oui, et dans un autre sens, non. Tout est une question de définition. Dans les évangiles, nous lisons par moments que Jésus était indigné, en colère. Est-ce que dans ces moments-là, Jésus avait péché? Bien sûr que non. Pourtant, il a éprouvé de la colère comme nous le verrons tout à l'heure. En fait, la colère en elle-même, en tant qu'émotion, n'est pas un péché. Face au mal, face à l'injustice, Dieu se met en colère. Et nous qui sommes créés à son image, nous réagissons comme notre Créateur quand une injustice a été commise à notre égard ou à l'égard des autres. Nous réagissons naturellement par la colère, comme Dieu. Le problème, et vous me voyez venir, c'est que depuis l'entrée du péché dans le monde, cette colère n'est pas toujours saine ni justifiée. Par exemple, pensez à cet enfant qui se met en colère, c'est un enfant capricieux qui se met en colère, qui réclame un jouet ou des bonbons dans un magasin, qui se met dans tous ses états parce qu'il n'obtient pas de vous, parents, ce qu'il veut. Colère justifiée ou non? Un parent dit non. Dès notre plus tendre enfance, nous crions facilement à l'injustice parce que tout ne se passe pas comme nous le voudrions. La colère, même justifiée au départ, peut nous entraîner dans des paroles que nous regrettons plus tard, dans des gestes ou dans des actes violents. L'actualité est pleine de ces faits divers où la colère a conduit à un règlement de compte, à un meurtre sordide ou encore à du vandalisme. On peut dire encore qu'une personne qui est furieuse devient dans un certain sens méconnaissable, voire incontrôlable. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Une personne qui est tellement furieuse qu'on ne la reconnaît plus. Peut-être que vous-même, vous avez déjà été dans cet état. Une colère incontrôlable. La colère peut potentiellement avoir de tels effets néfastes. Une colère destructrice est alors un péché. Et nous le verrons, de cette manifestation de la colère, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à nous en débarrasser. Un livre m'a aidé à voir clair sur ce thème, un livre de David Polisson qui s'intitule « Chrétien en colère », avec comme sous-titre « Ce que Dieu veut faire de votre colère, irritation, amertume ». Je l'ai lu en grande partie et j'en recommande la lecture si vous voulez approfondir ce sujet au-delà du message d'aujourd'hui, « Chrétien en colère » de David Polisson. Et j'y ferai de temps en temps référence. Néanmoins, le livre qui parle le mieux de la colère reste la Bible. Et c'est pourquoi je partirai de ce que Dieu dit dans sa parole pour nous instruire à ce sujet. Évidemment, pour un sujet aussi vaste, j'ai dû sélectionner certains textes. Et dans un premier temps, nous commencerons par évoquer le cas de Moïse, puis celui de Jésus, ce qui nous conduira à nous interroger sur nous-mêmes. Et puis, dans un second temps, nous verrons avec l'apôtre Paul comment les chrétiens doivent envisager la question. Commençons donc par la colère de Moïse, et puis nous parlerons ensuite de la colère de Jésus. Vous aurez compris qu'il y a une bonne colère, une colère qui est juste, et une mauvaise colère. Et je vous propose de commencer par la mauvaise colère. en regardant ce texte dans Exode 2, à partir du verset 11 jusqu'à 15. On parle de Moïse. « Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ? Moïse eut peur et se dit, l'affaire est certainement connue. Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Nous connaissons peut-être ce moment peu glorieux de la vie de Moïse. Il voit une injustice qui est faite à l'un de ses compatriotes, un Hébreu. Et Moïse réagit de la façon la plus violente, la plus forte, en tuant son agresseur. Alors le texte ne dit pas explicitement qu'il avait éprouvé de la colère, mais c'est ce qu'on peut supposer grandement en lisant ce texte. Excité par la colère, Moïse commet l'irréparable. Il n'est pas le premier dans la Bible. Mais souvent, la colère, après la colère, suit des gestes qu'on peut regretter, voire le meurtre. Et un détail doit d'emblée attirer notre attention, c'est ce qui se passe le lendemain de cette affaire. Quand Moïse s'interpose entre deux Hébreux en pleine altercation, eh bien voyez comment on lui répond au verset 14. « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Autrement dit, de quoi te mêles-tu ? Pour qui te prends-tu ? Est-ce que tu serais notre chef ? Cette question du verset 14 met en lumière, en fait, les motivations de Moïse. Oui, il voulait, en fait, jouer son rôle de libérateur avant l'heure, mais il n'en avait pas la légitimité. Dieu ne l'avait pas encore appelé à cela. Il faudra attendre le chapitre 3. Et bien des siècles plus tard, au premier siècle de notre ère, un certain Étienne racontera cette même histoire au Sanhédrin, le grand conseil juif de l'époque. Et cela confirme notre lecture de cette histoire. Regardez avec moi Actes chapitre 7, les versets 23 à 25. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Moïse se pensait investi d'une mission. Il ne supportait pas le mauvais traitement que subissaient ses frères. Et cela lui tenait tellement à cœur qu'il s'est mis en colère et qu'il est allé jusqu'au meurtre. En somme, il voulait être le héros de l'histoire. Il voulait être au centre de l'attention. Et si le cas de Moïse est sans doute un peu extrême pour nous, il n'en demeure pas moins qu'il nous arrive de nous mettre en colère pour les mêmes raisons. Pour des raisons égocentriques. Nous apprenons par ce récit que la colère se manifeste dans un certain contexte. Et pour citer David Paulison qui définit la colère comme une attitude, voici ce qu'il dit, c'est une attitude active que l'on adopte en opposition à quelque chose que l'on estime en même temps important et mauvais. Une attitude active que l'on adopte en opposition à quelque chose que l'on estime en même temps important et mauvais. Par exemple, si je suis à cheval sur les règles, sur les principes, sur la politesse, il se peut que je me mette en colère quand, par exemple, quelqu'un me dépasse dans une file d'attente. Ça vous est déjà arrivé ? Ça vous a déjà énervé ? Je me souviens qu'un jour, alors que je n'avais pas fait exprès, je suis passé devant une dame qui m'a reproché de l'avoir doublé. Elle a tout de suite exprimé son mécontentement. Pour elle, ce que j'avais fait était grave, d'où sa réaction. Autre situation, si vous suivez en ce moment la Coupe du Monde de foot, il n'est pas rare de voir un joueur ou même un sélectionneur sortir de ses gonds, se mettre en colère parce qu'il estime que l'arbitre n'a pas pris une bonne décision. Vous avez déjà vu ça, non ? Lors d'un match. Et j'imagine bien, parce que c'est facile extérieurement peut-être un petit peu de juger. J'imagine que dans cette situation, il est parfois difficile de garder son sang-froid. Alors, bonne ou mauvaise colère? La frontière est fine. Et pour Moïse, il fallait réagir devant une grande injustice. Ce qui le motivait profondément, c'était d'accomplir à sa manière la justice pour libérer son peuple. Et à ce moment de l'histoire, en fait, tout tournait autour de Moïse. La colère de Moïse qui l'a amené à tuer un homme n'était pas le seul problème. En fait, ses motivations étaient aussi le problème. Et cela renvoie à un questionnement personnel. Pourquoi me suis-je mis en colère à ce moment-là? Pensez à l'une ou l'autre situation que vous avez vécue et demandez-vous, pourquoi me suis-je mis en colère à ce moment-là? Quelles étaient au fond mes motivations? Qu'est-ce que j'ai considéré comme si important et mauvais pour que je réagisse de cette manière? Et si nous repensons à nos coups de colère, à ce qui nous irrite dans notre quotidien, il n'est pas rare que nous trouvions de l'égocentrisme. Quand je suis irrité, parce que les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu, parce que je n'obtiens pas la tranquillité, le confort, la liberté que je veux, la colère m'anime à avoir des pensées qui font des autres des ennemis de mon bonheur, des obstacles à la réalisation de mes désirs. Derrière la colère que nous ressentons, questionnons nos motivations profondes. Pensons à la question que Dieu avait posée à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu un air sombre? Pourquoi es-tu irrité? C'est ce que Dieu demande à Caïn. Ou quand il dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de te mettre en colère? Cela montre bien qu'il y a des situations où en fait il n'est pas bon de se mettre en colère. Pourquoi te mets-tu en colère? Est-ce que c'est ton ego qui a pris un coup? Et vous remarquez que quand tout tourne autour de nous, comme si nous étions le centre du monde, nous sommes facilement frustrés, irrités, en colère, et parfois pour trois fois rien. Et je vous l'accorde, mais ce n'est pas une excuse. Vivre dans le contexte parisien n'aide pas beaucoup à relativiser. Grève, incident ou retard dans les transports en commun, embouteillage sur le périphérique, plus tous ceux autour de nous qui manifestent leur mécontentement. Dans un tel contexte, c'est vrai que c'est difficile de garder son sang-froid, mais cela n'excuse pas la mauvaise colère. Regardons maintenant à Jésus et à ce qui s'est passé un jour dans le temple de Jérusalem. Je lis dans l'évangile de Jean au chapitre 2, les versets 13 à 17. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Ici non plus, la colère de Jésus n'est pas mentionnée explicitement. Mais ses gestes, sa manière de se débarrasser de ses commerçants, des animaux, ne laissent planer aucun doute. La colère, qui est déjà en fait en soi une émotion forte, conduit à une certaine violence. Et peut-être que ça vous choque, soyons honnêtes, peut-être que ça vous choque de lire que Jésus a fait tout cela, un fouet à la main. Jésus était indigné de voir ce que les hommes avaient fait du temple, de la maison de Dieu son Père. L'honneur, la sainteté de Dieu étaient directement visés et méprisés. Et face à ce qui était important à ses yeux et mauvais, Jésus ne pouvait que réagir par la colère. D'ailleurs, cette manière d'agir interrogeait les Juifs. Regardez ce verset 18. Au fond, qui lui a donné l'autorité ou même l'autorisation d'agir ainsi ? Jésus s'est mis en colère, a renversé des tables sans jamais pécher. Sa colère était tout ce qu'il y avait de plus juste. Et comme les disciples l'ont en mémoire, Jésus agit selon cette parole du psaume 69. Le zèle de ta maison me dévore. Jésus avait constamment ce souci de l'honneur, de la gloire de Dieu son Père. Et le temple, où normalement l'on venait pour adorer Dieu, ne pouvait pas servir de lieu de commerce. Jésus ne pouvait pas supporter cela. Et vous voyez ici que les motivations de Jésus étaient orientées vers Dieu. Nous pouvons aussi nous poser cette question-là, dans quel contexte cette colère s'est-elle manifestée? Pourquoi Jésus s'est mis en colère à ce moment-là? Dans quel contexte? Eh bien, nous voyons la suite. Je reprends le verset 18. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Quand les Juifs demandent à Jésus de montrer un signe qui puisse authentifier qu'il a le droit de faire ce qu'il fait, Jésus répond d'une manière imagée. Il parle du temple, mais en fait, il parle de lui-même. Et il fait référence à sa propre mort prochaine et à sa résurrection. En fait, le contexte de cette colère, c'est la mission qu'il a reçue de son Père. Il n'est pas venu dans ce monde pour le juger, mais pour qu'il soit sauvé. Oui, pourquoi Jésus a-t-il agi comme il l'a fait? Pourquoi s'est-il permis de se mettre en colère et de tout envoyer valser? Mais parce qu'il est venu pour sauver ce monde, pour sauver les pécheurs que nous sommes, pour les réconcilier avec Dieu. Purifier le temple était une chose, mais purifier des pécheurs en était une autre, et cela lui a coûté la vie. Christ est mort pour des pécheurs comme nous, afin qu'aucune charge ne soit retenue contre nous, afin que nos péchés, tels que notre mauvaise colère, soient pardonnés par Dieu, afin qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous voyons donc que les motivations de Jésus sont orientées vers Dieu, dans la perspective d'un don de soi, par amour pour autrui, par amour pour nous. Non seulement Jésus montre qu'il est possible de se mettre en colère et de ne pas pécher, mais il donne aussi l'exemple à suivre quant à nos motivations. Bien des choses dans ce monde doivent aussi nous indigner quand l'honneur, la sainteté, la volonté de Dieu sont bafoués. Alors, nous n'allons pas nécessairement renverser des tables, mais il est juste, me semble-t-il, de dénoncer le mal, l'injustice, peut-être même de participer à des actions de protestation, comme le fait de signer une pétition ou d'aller manifester. Quand le monde tourne mal, cela doit nous révolter. La maltraitance des plus vulnérables, la surexploitation des ressources de notre planète, la tyrannie de certains dirigeants sur leur peuple, les crimes contre l'humanité, les crimes passionnels, les abus sexuels au sein des familles, dans les institutions publiques ou privées, dans l'Église même. Et si cela ne nous fait ni chaud ni froid, il faut questionner ce qui est vraiment important à nos yeux, sur le plan moral et sur le plan éthique. Le mal est vraiment mal, est vraiment mauvais. Et le péché est ce que Dieu a en horreur. Est-ce que nous partageons cette même vision? Est-ce que nous voyons le mal pour ce qu'il est réellement? Est-ce que nous voyons l'injustice pour ce qu'elle est réellement aux yeux de Dieu? Et tout ce que j'ai mentionné ne doit pas nous laisser indifférents ni fatalistes en se disant que le monde est ainsi. Et j'aimerais vous poser cette question. Où est cette colère? Où est cette indignation qu'il est juste d'avoir? Parce qu'elle reflète la colère de Dieu à l'égard de toutes les choses que j'ai mentionnées. Où est cette révolte? Cette indignation? David Paulson l'a dit, lui-même dans son livre, « Notre colère est naturelle. C'est une capacité qui nous a été accordée en vertu de notre création, à l'image du Dieu qui est juste. » Si notre Dieu se met en colère lorsqu'il y a une injustice, alors il est tout à fait naturel, effectivement, que nous puissions, que cela puisse nous mettre en colère. Mais parfois, je crains bien qu'on puisse avoir un peu anesthésié cette réaction, en banalisant, en fait, le mal qui se fait ici-bas. Et il dit également, être humain, c'est donc être créé avec la capacité d'exprimer une colère juste. Ce n'est pas parce qu'il existe une mauvaise colère avec des effets destructeurs qu'il ne faut jamais se mettre en colère. La question demeure la même. Pourquoi sommes-nous en colère? Quelles sont nos motivations profondes? Et encore, je n'ai rien dit des injustices dont nous serions victimes personnellement. Je n'ai pas encore parlé des situations où quelqu'un nous fait du tort. Et je vous propose de l'aborder maintenant avec le texte de l'apôtre Paul, en mentionnant notre mauvaise colère. Parce que oui, comment mettre fin à cette mauvaise colère? Celle qui cause des dégâts, celle qui brise les relations. Comment retrouver des motivations qui sont plus saines? Eh bien, lisons ensemble cet extrait de la lettre aux Colossiens. Colossiens chapitre 3, et je commence par les versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et puis il continue au verset 5. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. » Dans cette lettre adressée aux Colossiens, l'apôtre Paul ne cesse de parler de Jésus-Christ. En Christ, les Colossiens ont déjà tout. Ils n'ont pas besoin d'ajouter la tradition des hommes ou une quelconque philosophie. Christ seul leur suffit. Et c'est pourquoi ici, Paul les exhorte à s'attacher à ce qui est en haut, là où se trouve Christ, leur Seigneur. À s'attacher à ce qui est dans le ciel, c'est-à-dire le ciel, c'est là où tout est parfait, où tout est pur, là où la volonté de Dieu est toujours faite, là où il n'y a pas de rébellion, ni de péché. Frères et sœurs, rappelons-nous, par ces paroles, en quoi consiste la vie chrétienne. À s'attacher entièrement à Christ et donc à tout ce qui est saint, pur et parfait. C'est en vue de nous rendre saints et de nous rendre parfaits que Jésus nous a donné une nouvelle vie, nous a permis un nouveau commencement, nous a accordé un nouveau cœur. Et depuis 2 semaines déjà, nous entendons par la parole de Dieu qu'un chrétien, qu'une chrétienne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont nouvelles. Le but que Dieu poursuit pour sa propre gloire, c'est que nous devenions parfaits. Et si nous comprenons ainsi l'intention de Dieu à notre égard, nous comprenons aussi pourquoi Paul exhorte les Colossiens à mettre à mort le péché, à pouvoir mettre à mort tout ce qui appartient à ce monde déchu. Et vous voyez au verset 8 que la colère fait partie des choses dont il faut se débarrasser. Et ici, bien sûr, nous parlons de la mauvaise colère, de celle qui détruit nos relations, de celle qui fait mal à notre prochain. C'est de cette colère-là dont on parle. Dans le contexte, Paul pense aux relations qui sont au sein de l'Église. Mais je ne pense pas que le principe soit différent pour nos autres relations. Comment nous débarrasser de cette mauvaise colère dont on peut être animé et qui peut faire des dégâts. D'abord, j'aimerais dire, et cela est un espoir pour nous, faisons confiance à la puissance de Dieu. Dieu qui est capable d'œuvrer en nous par son esprit pour nous changer. Peut-être que certains d'entre nous sont colériques de nature. Dieu est capable de vous changer. Dieu a la puissance de vous débarrasser de cette mauvaise colère. Celle qui nous conduit à pécher. Celle qui se manifeste par le fait d'avoir envie de se venger. Celle qui nous pousse à éprouver de la haine pour la personne qui nous a fait du tort. Dieu peut, a la puissance de nous débarrasser de cette colère-là. Et en même temps, de manière responsable, nous sommes exhortés à y renoncer. Dieu nous demande aussi cet effort d'y renoncer, de faire disparaître cette mauvaise colère de notre vie quotidienne. Et je crois que c'est très important. C'est très important parce que ce qui est en jeu, ce sont les relations que nous avons avec les autres. Alors je poursuis encore la lecture de ce chapitre 3 de Colossiens. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Paul ici utilise l'image du vêtement. C'est une autre manière de parler du nouveau cœur. C'est une autre manière de parler de la nouvelle création. Paul utilise cette image du vêtement pour indiquer qu'il y a un changement qui a eu lieu. Que ce qui était du vieil homme, ce vêtement sale, qui correspond à ce qui appartient à ce monde déchu, eh bien les Colossiens se sont débarrassés de cet habit. Et si nous avons cru en Christ, nous nous sommes débarrassés de cet habit également. Et en entendant l'Évangile, en connaissant Christ, eh bien les Colossiens ont pris un nouvel habit, l'homme nouveau, l'homme restauré à l'image de Dieu. Et ce n'est pas que... Peut-être, ici, ça peut prêter un peu à confusion quand on parle du vêtement. On a l'impression que c'est quelque chose qui est juste extérieur. Mais ici, il faut la prendre comme une image pour décrire le changement. Et vous savez bien que le changement dont il est question ici, c'est le changement intérieur. L'homme nouveau, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Et ce processus de transformation, comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir et de le dire plusieurs fois, n'est toujours pas terminé. D'où nos luttes, et notamment notre lutte contre la colère destructrice. Elle n'est pas terminée. Mais alors, comment faut-il réagir? S'il faut se débarrasser, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Eh bien, voyons la suite du texte, verset 12. « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Paul souligne l'identité nouvelle des Colossiens. Et avec cette identité nouvelle, il y a des qualités qui sont associées. Ici, 5 qualités, 5 vertus qui sont mentionnées. Compassion, bonté, humilité, douceur et patience. Et si je fais juste écho au texte que tout à l'heure Francis a mentionné au début, lorsqu'il parlait de Jésus qui donne le repos, il a dit aussi qu'il est doux et humble de cœur. Et vous voyez ces caractéristiques que l'on retrouve dans cette liste. La douceur, l'humilité. Autant de qualités que nous retrouvons chez Jésus. Et il s'agit pour les chrétiens de vivre avec les mêmes dispositions que notre Seigneur. Et c'est donc avec de telles qualités qu'il faut envisager les relations, en particulier au sein de la communauté chrétienne. D'où aussi les exhortations qui suivent tout de suite après. Versets 13 et 14. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, ce qui peut arriver, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Vous remarquez les verbes qui sont utilisés, revêtez-vous. On retrouve encore cette image du vêtement. Au lieu de laisser libre cours à notre colère pour une offense commise par un frère ou une sœur, apprenons à nous supporter les uns les autres, avec patience, avec humilité, avec compassion. En somme, parce que Dieu a fait de nous de nouvelles créatures, nous sommes appelés à renoncer à la colère qui détruit, à l'orgueil, à l'égocentrisme qui motive notre colère. Et en même temps, d'un côté renoncer, et en même temps adopter de nouvelles dispositions, telles que la compassion, la douceur, le pardon, l'amour. Et ces nouvelles dispositions ne viennent pas de nulle part. Vous le voyez dans ce verset 13, « Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Oui, nous avons nous-mêmes bénéficié du pardon total de Christ. Nous avons nous-mêmes été l'objet de sa grâce, de son amour et de sa compassion. C'est ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pourquoi nous pardonnons à notre tour. Nous pardonnons aux autres, non pas parce que c'est une bonne chose, mais parce que nous en avons bénéficié. Bien sûr, c'est également une bonne chose aux yeux de Dieu, mais d'abord parce que nous en avons bénéficié. C'est dans la mesure où nous pouvons reconnaître avoir eu beaucoup à nous faire pardonner par Dieu, beaucoup, qu'à notre tour, nous sommes prêts à beaucoup pardonner. Oui, vous l'entendez bien, c'est parce que nous reconnaissons, et il faut déjà commencer peut-être par là, nous reconnaissons que nous avons eu beaucoup à nous faire pardonner auprès de Dieu. Beaucoup de choses. Que nous sommes prêts à notre tour à beaucoup pardonner. En pardonnant, nous renonçons à la mauvaise colère. Nous renonçons à la vengeance, à la haine. En pardonnant, nous reconnaissons aussi le mal qui a été fait. Ce n'est pas une manière de fermer les yeux sur le mal qui a été fait. Parce que ce n'est pas rien. Nous avons réellement été blessés. Nous nous sommes réellement sentis trahis. Nous avons réellement été traités d'une manière injuste. Et tout cela, il ne s'agit pas de l'effacer. Et qu'est-ce que Jésus lui-même n'a pas subi comme injustice ? Et pourtant, à la croix, Jésus demande encore à son Père de pardonner à ceux qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et vous vous rendez compte qu'en pardonnant aux autres, nous ressemblons toujours davantage à Christ. Oui, lorsque nous nous mettons à pardonner aux autres, c'est là que nous ressemblons un peu plus à Jésus. Ce matin, est-ce que Dieu a mis le doigt sur notre problème avec la colère ? Et en réalité, c'est ce que aussi David Paulison écrit dans son livre, nous avons tous un problème avec la colère. Parfois, c'est une colère qui est juste enfouie et que nous n'exprimons pas. Mais nous avons bien un souci. Dieu a-t-il mis en lumière nos véritables motivations ? Et si nous appartenons à Christ, avons-nous pris comme vêtement la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour. Et c'est vraiment ce que Dieu veut que nous soyons au fond de nous, que nous ayons toutes ces qualités en nous. C'est ce que Dieu veut. Et permettez-moi de vous encourager ce matin à vivre comme Dieu nous le commande dans ce texte. Si vous êtes la personne offensée, ne restez pas avec de la rancune ou de l'amertume ou de la colère. Mais allez trouver la personne qui vous a fait du tort. Allez trouver la personne qui vous a fait du tort en vue du pardon et de la réconciliation. C'est très concret. Mais c'est ce qui vous permettra de vous débarrasser de la colère. Et si vous êtes la personne qui a fait du tort, eh bien accueillez une telle démarche lorsque la personne viendra vous voir. Et soyez prêt à demander pardon. Parce que parfois, nous ne nous rendons pas toujours compte que nous avons causé du tort à autrui. Ou bien, dès lors que vous en avez conscience, allez vous-même auprès de la personne que vous avez offensée. Et il faut l'avouer, en tant que pécheurs, nous n'avons pas vraiment envie d'agir ainsi. Lorsque nous avons été blessés, nous n'avons pas envie d'aller vers la personne qui nous a blessés. Bien sûr, je parle d'une manière assez générale et je n'évoque pas les cas particuliers où parfois il est difficile, voire impossible, d'aller voir la personne qui nous a causé du tort. Mais en tant que chrétiens, animés par l'Esprit Saint, nous savons que c'est ce qui est juste de faire aux yeux du Seigneur, parce que lui-même nous a pardonnés, parce que lui-même a subi la colère de Dieu que nous méritions. Alors bien évidemment, je n'ai pas tout dit sur la colère, mais j'espère qu'en ayant entamé ce sujet, cela va pouvoir aboutir à des discussions et surtout à un examen de soi. Parce que le sujet est aussi vaste que complexe. Et j'espère n'avoir pas pris trop de raccourcis en évoquant ce sujet. J'espère aussi que le Seigneur nous a parlé et nous a aidés à regarder à ce qui se passe au fond de nous, à nos motivations profondes. Et que nous soyons colériques ou que nous nous mettions facilement en colère ou que nous soyons animés d'une colère froide et intériorisée, je suis plus de ce profil-là, eh bien nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour transformer nos motivations, nos dispositions. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour qu'il n'y ait plus de place pour la mauvaise colère, ni pour la haine, mais qu'il y ait de la place pour l'amour, qui est le lien par excellence. Par amour pour son Père, Jésus s'est mis en colère dans le temple. Et par amour pour nous, Jésus a accepté que la colère divine tombe sur lui plutôt que sur nous. Alors rattachons-nous à Jésus. Lui a toujours su comment réagir de la bonne façon. Attachons-nous à Jésus afin de pouvoir aimer comme il a aimé. Amen. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons encore pour ta parole qui nous enseigne sur des sujets tels que la colère. Et parce que nous sommes directement concernés, nous voulons en premier lieu te demander pardon pour tous ces excès de colère injustifiés, pour toutes les fois où nos motivations étaient d'abord égocentriques, parce que c'était nos intérêts qui étaient en jeu et que nous pensions qu'à nous-mêmes. Oui, pour toutes ces colères que nous avons pu exprimer à l'égard d'autrui, de notre prochain, alors même peut-être parfois qu'au fond, ils n'avaient rien fait. Oui, pardonne-nous, Seigneur, pour la mauvaise maîtrise que nous pouvons avoir de notre colère. Et veuille nous faire grâce encore de pouvoir adopter les bonnes dispositions, de savoir être patient à l'égard de l'autre, de pouvoir se supporter les uns les autres comme tu nous appelles à le vivre au sein de l'Église en particulier. Oui, que nous sachions supporter avec patience le fait que mon frère, ma sœur aussi est pécheur. Et que nous sachions accorder le pardon parce que nous l'avons nous-mêmes reçu de toi. Merci pour ce pardon que tu as exprimé en Jésus-Christ. Merci pour sa mort à notre place. Merci parce que c'est lui, effectivement, qui a payé et qui a subi ta colère. Pour que nous puissions nous tenir devant toi encore ce matin, avec reconnaissance. Alors oui, encore une fois, béni sois-tu, notre Dieu, de ce que tu veuilles nous changer, pour que d'être de colère que nous puissions être, nous puissions devenir des êtres qui sachent aimer comme tu nous aimes. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen.